La chronique en débat, c'est l'actualité éducative avec l'éditorial de l'Espère comme l'envie Maudy Johnson, analysé et commenté par Laurent Ladouce. La chronique en débat, c'est chaque semaine sur la web radio du groupe Éduque Action.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Chronique en débat. Chronique en débat, c'est l'émission au cours de laquelle les personnes ressources, les spécialistes, les avertis des questions éducatives décryptent la chronique, la réflexion de Maudy Johnson, planificateur de l'éducation, sociologue, philosophe. Chronique en débat, c'est l'émission au cours de laquelle la réflexion de Maudy Johnson est passé à la loupe par les avertis des questions éducatives, les personnes ressources qui opèrent dans le champ de l'éducation au Bénin, en Afrique et dans le reste du monde. Chronique en débat, c'est l'émission au cours de laquelle nos invités nous aident à décoder le message que Maudy Johnson véhicule dans sa réflexion. Et voici justement la réflexion de Maudy Johnson du jour que nous livre ici Gloria Adivesoli.
Respect entre tradition et modernité. Je voudrais évoquer une thématique essentielle qui est la notion de respect. Elle est de nos jours devenue difficile à cerner et à asseoir au regard notamment d'une mondialisation qui n'arrive pas à s'harmoniser avec les valeurs nationales. Face au respect, on oppose de nos jours la liberté et l'intégrité de l'enfant. Il faut l'élever, mais pas le punir, car toute violence est à bannir de l'éducation. Or, dans nos sociétés africaines, où le respect des anciens est érigé en dogme, nous avons une réelle difficulté avec les théories occidentales, toujours plus permissives où l'enfant est roi. Le parent devant le simple serviteur, sinon le premier courtisan. Comment alors apprendre à quelqu'un sans la nécessaire discipline qui intègre le respect de valeurs diverses et l'inévitable punition? Prenons un exemple curieux, main édifiant. Je me souviens de la famille Dossou qui avait quitté le Bénin depuis des lustres. Les enfants pétris dans le levant de ces pays de liberté infinie n'étaient jamais venus dans leur patrie. Le père surtout, que toute sa communauté avait beaucoup soutenu au moment de voyager, rêvait de ramener toute la famille au bercail afin de la ressourcer. Mais il se rendait compte confusément que cela ne serait pas facile au regard d'un brassage entre des mondes si proches grâce à la mondialisation, mais si différents dans la réalité. Ils débarquèrent en territoire conquis avec les mêmes préjugés que la plupart de ceux qui avaient vécu de l'autre côté de l'océan. Il faisait trop chaud, un peu de voie pavée, mais les ruelles étaient sales, etc. Bref, les civilités étaient sur place avec leur cortège de questions oiseuses et inconfortables. Appréhendant cette rencontre à la fois générationnelle et civilisationnelle, il décida de commencer par l'invitation du chef de sa lignée à Cotonou. Cela dérogeait au protocole, mais il présenta le projet fort adroitement, prétestant de la nécessité de recueillir des conseils de la plus haute importance que celui-ci se décida à venir. Il se dit que d'une façon ou d'une autre, il aurait des éléments d'appréciation pour mieux préparer la nécessaire visite des enfants au village, encore qu'il fallut aller les présenter aux ancêtres défunts, aux Assins. L'oncle arriva, sonna et rentra, et se retrouva devant un de ses descendants qui lui ouvrit la porte et le regarda nonchalamment, sans le voir, et lui accorda un vague salut. Et avant que le père et la mère apparaissent, l'oncle avait déjà fait la rencontre des trois jeunes évolués, pleins de nonchalance et de morgue. Le père apparut précipitamment, navré d'avoir raté l'arrivée de son oncle. Il le salua très respectueusement et tenta de le présenter chaleureusement à ses enfants qui n'arrivaient pas à manifester quelque intérêt pour ce visiteur dont les codes vestimentaires et civils ne correspondaient pas à leurs canons habituels. Pour résumer, comment apprécier et respecter un homme aussi ringard qui s'exprimait dans un français peu conforme? Ce sont ces jugements que le père voulait éviter. Il avait cherché à préparer ses enfants à la rencontre. Les parents avaient perçu le sentiment de l'oncle qui avait conclu qu'il se retrouvait devant des enfants qui ne comprenaient pas que le respect devrait participer de la tolérance et de l'acceptation de la différence et surtout de l'intégration d'un certain nombre de valeurs. Ils passèrent un moment à se côtoyer avec des géniteurs désemparés devant un parent qui subit stoïquement les impertinences d'une descendance qui avait fini de juger. Enfin, il se leva pour partir après un repas pénible où les enfants se plaignaient des métros locaux et rendez-vous fut pris pour un tour au village. Ils arrivèrent, Malgré les sermons de leurs parents, les enfants avaient de la peine à retenir leur dédain. On les présenta à la communauté et ils firent les difficiles, même dans la case des assaints. Pour terminer, on les invita sur la véranda apprêtée à un copieux d'accoing à base de poissons et au milieu du repas, l'aîné cria. Une arête était coincée dans sa gorge. On fit tout et il fut rapidement transporté à l'hôpital. Rien n'y fit, car en réalité, la formidable médecine moderne n'arrivait pas à localiser l'objet qui dérangeait. Les parents avaient compris la leçon et s'étaient reportés vers le village pour implorer la clémence des anciens. Après moult palabres, on lui demanda de se présenter avec les enfants mal éduqués devant toute la famille. On les mit à genoux et un vieillard dans un français bien châtillé leur fit la morale et leur montra qu'il fallait respecter à la fois la différence et la culture. Chaque société a ses valeurs et on pouvait facilement punir. Le patriarche s'avança, toucha l'enfant et lui donna de l'eau à boire. Et brutalement, il ne sentit plus l'arête. Ils remercièrent avec une seule envie, fuirent loin du village et du pays. Mais on leur dit, « Vous reviendrez souvent pointer et honorer les ancêtres afin de mieux intégrer nos valeurs. Vous réussirez maintenant partout et toujours. Sachez qu'on vous a à l'œil. »
Merci à vous, Gloria Adivès, vous qui avez prêté votre voix à celle de Maudie Johnson pour nous livrer la réflexion du jour. Très belle histoire contée par le chroniqueur Maudie Johnson qui touche à la notion de respect en Afrique, ce qui justifie d'ailleurs le titre qu'il donne à sa chronique « Respect entre tradition et modernité ». On va prendre cette fois-ci l'avis de Laurent Ladouce, notre consultant depuis Paris, qui va nous introduire dans les débats tout au long de cette émission avec notre invité déjà en studio, Laurent Ladouce. Bonjour, comment vous vous portez? J'espère que le soleil vous réveille ce matin à Paris. Dites-nous ce matin encore, quel commentaire vous inspire la chronique de notre chroniqueur maison, Maudie Johnson? Je rappelle que Maudie Johnson est philosophe, sociologue et planificateur de l'éducation au Bénin. Laurent Ladouce, bonjour.
Bonjour à tous, chers auditeurs. On va parler du respect naturel en réaction donc à l'éditorial de Maudie Johnson qui fait réfléchir au respect. Bon, l'être humain respecte assez naturellement ce qui est plus grand que lui, mais on doit aussi s'entraîner à respecter ses égaux et les subordonnés. C'est le chemin naturel du respect, d'unir toutes les positions pour préserver l'unité. Le nord de l'Europe compte plusieurs pays peu peuplés, plutôt discrets sur le plan international. Ils n'aiment pas les coups d'éclat, ils s'abstiennent de faire la morale aux autres ou de proclamer qu'ils peuvent régler tous les problèmes. Le Danemark, la Suède, la Norvège et la Finlande occupent régulièrement les premiers rangs des classements internationaux. Ce sont des démocraties exemplaires avec des institutions très mûres. La corruption y est rarissime, la criminalité est faible, les revenus sont parmi les plus élevés du globe, la politique sociale est fort généreuse, ce sont aussi les pays les plus sûrs du monde, les plus pacifiques. Quelle est la place du respect dans ces pays? La Norvège, la Suède et le Danemark sont des monarchies avec des familles royales discrètes et sobres. Les aristocraties de ces pays ont jadis joué un grand rôle pour développer leur nation, mais sont heureuses de vivre sans privilèges particuliers de nos jours. Dans ces pays, les parlements comptent presque autant de femmes que d'hommes pour voter les lois. Un premier ministre peut aller au travail en vélo et faire ses courses au supermarché avec sa carte de crédit personnelle. On le saluera avec respect, sans plus. Ces pays ont quelques grands noms dans le sport, la culture, les affaires. Ces célébrités vivent rarement dans une bulle. En général, elle s'implique dans la vie publique, le mécénat, une cause quelconque. Mais que respectent donc ces gens du Nord? Elles respectent l'argent, le pouvoir, mais sans plus. Ils regardent les puissants de ce monde sans les envier, car ils aiment peu l'artifice, le tape à l'œil, l'excès. Ils respectent énormément la nature et vivent avec elle. Ces peuples restent au contact direct des éléments. Terre, la mer, l'air. Mais chez eux, tout doit être propre. Ils aiment la vie pratique, sont souvent très manuels. Une autre chose ultra respectée chez eux, c'est la loi. On ne triche pas avec la nature, ni avec la loi. Bon, ça fait des siècles qu'on a commencé à vivre ainsi chez eux. La notion de révolution est impensable. Il y a des conflits, mais on règle ça par des réformes. Quelque chose irriterait néanmoins certains Béninois traditionnels. C'est cette manie de l'égalité, de la simplicité. Pour des Béninois qui attendent de se faire servir, honorer, qui adorent le protocole, le choc peut être rude. Mais c'est pareil pour bien d'autres peuples de la Terre. Imaginez que vous allez chez les premiers de la classe sur la planète Terre, des gens qui excellent dans tant de domaines, et vous découvrez des gens simples et naturels. Ça surprend. Cela inspire-t-il aussi un certain respect? À vous de juger. Merci pour votre attention.
C'est nous qui vous remercions, Laurent Ladouce. Merci pour nous avoir. C'est nous qui vous remercions, Laurent Ladouce. Merci pour votre commentaire introductif dans cette émission qui se veut débat de la chronique de Maudie Johnson. C'est votre avis. On verra bien si notre invité en studio partage justement votre avis, Laurent Ladouce. Merci, bonne suite de journée à vous. Merci d'être à l'écoute du débat sur l'émission chronique en débat qui reçoit ce matin un invité, un habitué de ce studio. Il a nom Jean-Olaïtan Tonoukouin. Il est journaliste de formation et de profession. Il est le président de la JAPED, l'Association des jeunes artisans pour la promotion de l'éthique et du développement. Jean-Olaïtan Tonoukouin, bonjour.
Romuald Logo, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Merci beaucoup, Jean-Olaïtan Tonoukouin, d'avoir accepté notre invitation.
C'est un plaisir.
On vous connaît très actif sur le champ de l'éthique au Bénin. Vous en avez donné la preuve plus d'une fois. Vous avez plusieurs fois organisé des activités de sensibilisation pour sensibiliser les Béninois sur ce qui est l'éthique au Bénin. Et c'est justement à ce titre que nous vous invitons dans cette émission qui se veut émission qui touche au respect, à la notion de respect entre modernité et tradition. Vous aurez souhaité quoi, vous, Jean-Olaïtan Tonoukouin, pour ce qui est du respect? Parce que quand on écoute le développement tout à l'heure de notre consultant depuis Paris, Laurent Ladouce, aucun peuple ne peut aspirer au développement s'il n'est bien éduqué. Aucun peuple ne peut aller au développement sans le respect.
D'abord, Romuald, je tiens à saluer le chroniqueur Maude Johnson pour sa clairvoyance, son sens élevé de responsabilité et également sa façon de nous ramener chaque fois à la source pour que nous puissions quand même exploiter les pistes, les véritables pistes de développement. Je m'en voudrais de ne pas remercier aussi Laurent Ladouce qui, à l'entendre, à suivre son développement, on comprend aisément que c'est un monsieur qui, à un moment donné, a fait quand même le Bénin et il est resté un peu scotché à la tradition et il comprend un peu les réalités.
Et il n'est pas que resté au Bénin, il est resté à Dangbo.
À Dangbo, voilà. À Dangbo, dans la vallée. Donc, je pense quand même que je ne pourrais pas répondre en disant que je vais faire un choix entre la tradition et la moderne. La seule chose qu'il use de comprendre est que nous devons comprendre une chose. Aucun peuple, aucune nation ne peut se développer sans sa tradition. La tradition et la modernité, certes, parce qu'aujourd'hui, si nous sommes ici, en train d'émettre devant ce micro et que des milliers de gens sont à l'écoute et qui nous entendent, qui entendent nos voix, on ne peut quand même que nous devons cela à la modernité, à la science. Et c'est quand même certaines personnes qui, à un moment donné, sur la planète, se sont regroupées et ont compris quand même la nécessité, justement, de nous permettre de nous raccourcir un peu la communication. Et c'est ce à quoi nous assistons, les téléphones portables, la révolution téléphonique, la téléphonie mobile et tout. Donc, ça n'a pas existé sans la modernité. Et donc, moi, je pense quand même qu'au-delà de tout, la tradition reste et demeure la tradition. Un adage dit souvent, le séjour dans l'eau ne transforme pas un tronc d'arbre en crocodile. Et revient maintenant à chaque acteur de savoir comment concilier la modernité à la tradition.
Vous demandez justement l'adaptation de la tradition à la modernité, ça va faire hybride, on peut le dire ainsi. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment que ce que nous copions de l'extérieur par les télévisions, ce que les jeunes regardent sur les telenovelas, les programmes étrangers, en arrive à influencer la qualité de l'éducation de nos enfants qui s'éloignent justement de l'éducation traditionnelle naturelle au profit de l'éducation moderne?
Je pense que la faute revient d'abord, je le dis souvent, aux géniteurs que nous sommes, d'abord à l'État. Parce que si il y a par exemple des pays dans lesquels, quand nous écoutons par exemple les chaînes de radio, on ne joue que la musique de chez eux. La musique traditionnelle. Donc, ces peuples ne connaissent que la musique de chez eux, ou du moins se valorisent d'abord la musique de chez eux, excusez, à travers les programmes. Si, chez nous, on préfère les telenovelas, qui sont quand même, c'est pas tout ce qui se passe au niveau donc de ces programmes-là, de ces différentes chaînes de télévision qui reflètent la réalité. C'est des fictions. Et c'est vrai que les gens tiennent compte de ce qu'ils peuvent à un moment donné, ce qui pourrait éventuellement leur permettre de renflouer leur poche au détriment de l'éducation. C'est comme on le dit souvent, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. C'est un peu ça, ce que ça reflète aujourd'hui. Maintenant, il revient à chaque parent, à chaque éducateur, de comprendre la psychologie justement de cette telenovela et que les bouts de chou qui sont en train de naître, qu'on puisse, même en étant avec ces programmes-là, juste après, leur expliquer le bien fondé de, peut-être, de certaines actions, de certains actes qu'on aurait vus dans cette telenovela. Aujourd'hui, combien de parents arrivent à s'entretenir avec leurs enfants?
Vous indexez là l'absence ou le défaut du dialogue parent-enfant, c'est ça?
Je ne parlerai pas directement d'indexer. Je n'indexe pas parce que le parent aujourd'hui, compte tenu des réalités de la vie,
on va dire
tout
que
le temps à la recherche de quoi
entretenir la famille,
8 heures de travail, on dit, dans une journée. Les enfants, à un moment donné, qui vont quitter la maison pour aller aussi à l'école, dans les lieux d'éducation. Les instituteurs, la qualité des enseignants que nous avons aujourd'hui, est-ce que c'est les éducateurs que nous avons ou bien nous avons seulement des instituteurs?
Les éducateurs qui... agresseurs sexuels? C'est beaucoup. De ceux-là que vous parlez?
Il y a beaucoup de ces choses-là et quand on va se mettre sur ce champ, c'est un peu vaste. Je pense quand même que entre la tradition et la modernité, il y a encore beaucoup de fossés. Et donc, il y a un grand fossé. Et donc, si on doit véritablement corriger le tir, ce ne serait qu'avec les chroniques, avec les éveilleurs de conscience comme Maude Johnson, pour rappeler à chaque fois le rôle, que ça soit l'État, que ça soit les parents, que ça soit personne que nous sommes, nous devions véritablement à jouer dans le développement de notre nation à travers justement la première des choses, le respect.
Vous dites que le dialogue parent-enfant est inexistant au Bénin. Aujourd'hui, les parents s'occupent beaucoup plus.
Quasi inexistant,
voilà. Pour vous paraphraser, vous dites que les parents se préoccupe de quoi donner à manger à la famille, se préoccupe du bien-être de la famille, mais n'ont toujours pas le temps ou pas forcément le temps de s'occuper de l'éducation réellement des enfants en laissant justement la société s'en occuper d'une part et l'école prendre le relais.
C'est ça, c'est le constat que nous faisons.
Alors justement, face à ce constat que vous avez fait, vous avez suivi l'histoire contée dans la chronique par Maude Johnson tout à l'heure, puisque les parents ne sont presque jamais présents à la maison, vous l'avez dit, tout ce qu'on projette sur les programmes étrangers via les mass médias, la télévision, les réseaux sociaux, tout n'est pas que réalité. Certains de ces programmes sont des fictions. Mais est-ce qu'il y a toujours les parents présents à côté des enfants pour leur faire comprendre que ce programme que vous venez de suivre est une fiction? L'enfant a vu à la télé, l'enfant veut l'appliquer.
Malheureusement, il n'y a pas ça. Aujourd'hui, vous allez remarquer que les parents sont au boulot. La télévision, elle est là. Les enfants reviennent. Ils sont même devant la télé avant que certains parents ne reviennent du boulot. Il y a des parents qui ne voient presque même jamais leurs enfants. Ils se lèvent tôt pour être peut-être à leur lieu de travail. Ils reviennent tard pendant que les enfants sont déjà au lit. Alors, à partir de ce moment-là, tout ce que l'enfant a eu à faire dans la journée, le parent n'a pas le temps de pouvoir quand même échanger avec son enfant par rapport à telle situation ou telle situation. Ce n'est pas le cas dans les pays occidentaux, par exemple, où vous êtes réglé. Il y a la rigueur. Si c'est 8 heures de travail, vous ne faites que les 8 heures de travail après le boulot, vous êtes à la maison. Et quand vous êtes à la maison, il n'y a pas que un visiteur viendra vous déranger sans vous avoir prévenu à l'avance que aujourd'hui nous allons avoir de visiteurs. On a un temps pour manger ensemble à table et ça permet aux uns et aux autres de dialoguer, de discuter. Ce n'est pas le cas en Afrique où la culture communautaire a pris le dessus. Le parent peut ne pas respecter les horaires. On quitte le boulot, on préfère passer d'abord chez un ami pour échanger un peu, prendre un pot et tout ça avant de revenir à la maison. Or, sous d'autres cieux, on n'a pas ce temps-là. Le temps est précieux et le temps, c'est de l'argent. Donc, quand nous analysons un peu l'histoire contée par Maude Johnson dans sa chronique, on comprend aisément que ces enfants qui sont nés hors du pays et ont vécu dans une autre tradition. Il n'y a pas, même si leurs parents qui ont compris le bien fondé de cette tradition-là, le respect dans la tradition, dans leur tradition, essayaient de leur expliquer ce qu'est cette tradition-là à l'extérieur où ils sont nés, ils ont vécu dans une autre réalité. Ce n'est pas évident que ces enfants comprennent véritablement le bien fondé de ce que les parents sont en train de leur expliquer. La preuve, vous allez comprendre que ces parents-là, dans l'histoire contée par Maude Johnson, quand ces enfants vont quitter le territoire, je ne sais pas si c'est béninois, ben je pense quand même que c'est bien béninois parce qu'on a parlé du Dakouin, ils ne voudront plus jamais revenir au regard de l'expérience qu'ils ont vécue. Et c'est là la grande interrogation. Lorsque nous aspirons peut-être au mieux-être et ça nous fait à un moment donné déplacer de notre pays pour l'Occident ou je ne sais, en tout cas donc de notre culture pour une autre culture, que faisons-nous de l'autre côté là-bas pour que véritablement nous restions toujours scotchés à notre culture? Parce qu'on dit souvent, nous n'allons pas mourir là-bas, on préfère revenir à la source. Le séjour dans l'eau n'a jamais transformé un tronc d'arbre en crocodile. Maintenant, même si nous avons la chance de mettre au monde nos enfants là-bas dans les conditions que nous savons, parce qu'il y a certains parents qui refusent carrément ou certains jeunes qui planifient et ils demandent, parce que là-bas, il y a beaucoup d'avantages lorsque vous vivez là-bas. Et donc, même pour accoucher, il y a des subventions, il y a plein de choses. Et donc, quand vous avez la chance de vivre ces réalités-là, comment est-ce que vous essayez à un moment donné de raccorder ou de moins de faire le rapprochement avec la culture de chez nous pour qu'une fois, quand vos enfants auront besoin de fouler le sol de leurs ancêtres, qu'ils puissent refléter cela? Vous allez comprendre quand même que le parent a voulu tout faire pour que l'enfant ne tombe pas dans ses travers. Mais les enfants étant éduqués dans une autre culture, quoi que ses parents ont pu faire, les enfants sont tombés dedans et puis la conséquence, elle est là. On a vu ce qui s'est passé.
Jean Ola, étant au nous coin, encore deux ou trois questions rapidement avant de prendre un autre avis dans cette émission. Les bonnes ou mauvaises langues racontent que les personnes qui sont nées, qui ont vécu, qui ont grandi au village, ont beaucoup plus la notion du respect que les personnes qui sont nées dans les villes, notamment les citadins. Qu'est-ce que vous en dites?
C'est relatif. Je pense quand même que si vous êtes né au village, jusqu'à l'heure où nous parlons à Cotonou dans le Bénin, il y a certaines personnes pour saluer. Les grandes personnes sont obligées, même s'il y a un chapeau, on enlève le chapeau et on s'abaisse pour saluer.
Ça existe encore à Cotonou?
Ça existe encore. Pour ceux-là qui comprennent encore le sens, qui sont nés dans des traditions que nous connaissons de chez nous, pire, s'abaisser, c'est encore peu dire. Il y en a qui carrément
s'agenouillent
et il y en a qui s'étalent même à même le sol pour saluer les aînés. Et donc, moi, je pense que il va de soi. Chacun sait ce qu'il met dans le respect. Ça ne voudra pas dire que celui qui est né, par exemple, en Occident, et qui sait que quand on se lève, « Bonjour, papa, salut, tel », n'est pas respectueux. Mais il est respectueux de par la tradition, de par l'environnement dans lequel cette personne a évolué.
Je vais vous lire cet extrait de Maude Johnson dans sa chronique par rapport au respect qui dit que, citation, « Le respect devrait participer de la tolérance et de l'acceptation de la différence et surtout de l'intégration d'un certain nombre de valeurs. »
Et c'est justement ce dont je suis en train de parler. Là, ce n'est pas la même chose. On peut être du même village, par exemple, et que vous soyez né dans le village avec les traditions du village et que moi, je sois né à l'extérieur avec autre tradition et je reviens. Si pour vous, le respect, c'est de vous agenouiller pour saluer et si pour moi, l'environnement dans lequel je suis né, le respect, c'est de rester debout pour pouvoir saluer la personne âgée, cela ne voudra pas dire que je ne suis pas respectueux. C'est de ça que le chroniqueur voudrait parler. La tolérance, il faut comprendre d'abord quel est l'esprit, l'état d'esprit dans l'état dans lequel X ou Y est en train donc de poser cet acte-là. Vous allez comprendre qu'il y a d'autres réalités, d'autres traditions voudraient que des gens se coiffent autrement. On peut se coiffer autrement et être ministre de la République, par exemple. Par contre, chez nous, pour être ministre de la République, il y a certaines coiffures qu'on ne peut pas. La preuve, on a connu un ministre de chez nous, actuel, et qui quand même est revenu d'une culture donnée avec une coiffure et tout, et il est ministre, mais finalement, il a compris, il s'est adapté à la réalité de chez nous. Donc moi, je pense que chaque peuple, chaque environnement, chaque nation avec sa réalité, et lorsque vous vivez dans ces milieux-là, vous ne pouvez que refléter les réalités de ces milieux. Mais quand vous avez eu la chance de connaître au moins votre soubassement, votre culture, une fois quand vous revenez à la source, vous devez vous conformer à la réalité de chez vous.
Jean Olaïtan Tonoukouin, la modernité. Dites-nous, pendant longtemps, avez-vous tutoyé ou vous voyez vos parents?
Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai jamais tutoyé un parent à moi.
Alors, aujourd'hui, c'est courant, hein? Des jeunes qui tutoient leur papa, des enfants qui tutoient leur mère. Est-ce la preuve de la modernité, de l'envahissement des programmes étrangers qui déteint sur l'éducation de base que les parents ont donnée à leur enfant?
Je continue toujours de croire que, au Bénin, malheureusement, nous avons tendance, à des moments donnés,
c'est le mimétisme,
à dépasser même, le colon, le colonisateur, et en fait on veut tout faire pour ressembler ou bien pour montrer quand même que on n'est pas, on vit au Bénin mais on n'est pas béninois, et c'est là le danger, parce que si on peut comprendre cet état de choses, si les enfants sont nés à l'extérieur hors et qui ont vécu dans une autre culture, ou quand tu le dis ainsi, par exemple tu vous vois peut-être un parent à l'extérieur, c'est mal perçu, c'est mal vu, et donc c'est la réalité de là-bas. Mais quand tu viens ici, attention, notre réalité ne nous permet pas de vous voir. Mais malheureusement, il y a des parents ici qui veulent transporter ce qu'on voit. Et il y en a même qui n'ont jamais mis pied à l'aéroport, mais qui, de par les télénovelas et tout, regardent, ils voient et ils exigent même que les enfants, ils veulent faire exactement comme ce qu'ils ont vu là-bas. Non, nous devons avoir la tête sur les épaules et comprendre à un moment donné que, quoi qu'on dise, nous sommes d'abord nous-mêmes avant que d'autres réalités ne viennent s'imposer à nous. Et il faut comprendre une chose, quand on est parent, nous devons avoir la tête sur les épaules et le monde évolue. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle et tout ce qui se passait peut-être avant ce siècle-là n'est plus la même chose aujourd'hui. Il faut s'adapter aussi aux réalités pour pouvoir éduquer nos enfants. Avec le téléphone portable aujourd'hui, l'enfant peut voir tout. Or, il y a de cela 20 ans en arrière, le téléphone portable n'existait pas. C'était le téléphone conventionnel qu'on utilisait. Aujourd'hui, on peut voir beaucoup de choses, des films, les smartphones, la révolution téléphonique existe. Donc, il faut réorienter l'éducation des enfants au regard de tout ce qui s'impose à nous comme modernité.
Jean Olaïtan Tonoukouin, modernité nous éloigne du village. Certains parents ne veulent pas du tout amener leurs enfants dans leur village.
Bon, qu'est-ce que je peux dire par là? Ça dépend de l'expérience de chacun.
Cotonou ou rien, pas de village pour les enfants. Les enfants ne connaissent pas leur origine. Du coup, la notion de la tradition est totalement une notion abstraite. Les enfants ne connaissent pas leur culture, ne sont jamais allés au village et s'occupent justement, se contentent, dirais-je plutôt, de ce que l'on leur projette à la télévision qui vient de l'extérieur.
On n'a pas besoin forcément d'aller au village avant d'être au courant, ou du moins avant de maîtriser cette tradition. Même en étant à Cotonou, en étant né à Cotonou, on peut maîtriser la tradition. Tout dépend de ce que le parent a inculqué à l'enfant. Parce que lorsque vous vivez avec un parent, tout part du bas âge.
Vous avez vu, vous avez lu la scène contée, vous avez entendu la scène contée par le chroniqueur Maudie Johnson.
Justement.
Les enfants ont fait un tour au village. La suite, vous la connaissez?
Oui, mais la suite n'est pas arrivée comme ça. Il faut simplement que certaines personnes arrivent à un moment donné à corriger ses enfants, à leur montrer que vous êtes dans un environnement où les choses doivent se passer autrement. C'est vrai que ce que vous avez vécu là-bas. On voit un aîné, par exemple, on estime qu'il est mal habillé. Alors, dans le village, peut-être que c'est la tradition qui lui
voilà.
demande de s'habiller comme ça.
Mais voilà, il aurait fallu faire un tour au village pour comprendre que Celui qui est mal habillé, c'est...
Celui qu'on peut-être voit mal habillé n'est pas mal habillé.
N'est pas mal habillé, exactement.
Voilà. Quand vous voyez un chasseur, par exemple, qui, ou du moins nos adeptes, par exemple, de nos cultes que vous savez, qui sont souvent sans habits, sont dans leur accoutrement, ça paraît bizarre pour ceux qui n'ont jamais vu ça, mais il faut aller véritablement au village de temps en temps, que les parents expliquent aux enfants, leur montrer leur source. Moi, aujourd'hui, je préfère aujourd'hui le village que tout autre. Parce que lorsque vous êtes dans cet environnement, hors de Cotonou, vous-même vous allez sentir que vous faites une, deux, trois fois, trois séjours. Vous allez comprendre que vous serez à l'aise, loin de certaines réalités. Et vous vivrez plus en forme, vous serez plus en forme même que celui qui vit à Cotonou avec tout ce que vous savez.
Je vous poserai une dernière question tout à l'heure avant de conclure cette émission. Jean-Ola étant au Noukoué, mais avant, avec l'indulgence de notre technicien, de notre réalisateur, du régisseur aussi d'antenne qui est là, nous allons prendre l'avis d'un autre dans cette émission, une autre personne ressource. Son nom, Marius Dakpogan. Il est professeur certifié de lettres à la retraite. Il est le président fondateur de l'Institut supérieur de formation professionnelle Doyen Marius Dakpogan. Bonjour, votre avis nous intéresse aussi.
Oh, bonjour, monsieur Lobo. Je te remercie infiniment de m'avoir invité pour prendre part à ton émission. Et le thème que vous développez aujourd'hui, c'est le respect entre tradition et modernité. Et vous avez souhaité, n'est-ce pas, que par rapport à cette thématique, je dise ce que je pense. Je voudrais vous dire tout de suite que la thématique que vous avez proposée me paraît juste un peu restrictive. Et je voudrais aborder la question en tenant compte d'un certain nombre d'éléments que je vais développer. Dans un premier temps, je m'efforce de définir ce qu'on peut appeler le respect. Le respect, selon le dictionnaire Larousse, est un sentiment qui amène à traiter quelqu'un ou quelque chose avec un grand respect, avec déférence. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque je suis en présence d'une personne que je dois respecter, il y a une manière de lui parler, il y a une manière de me comporter avec cette personne, et cette manière-là montre, n'est-ce pas, la considération que j'ai pour cette personne. De la même manière, par rapport à des choses que j'aborde, n'est-ce pas, j'ai une attitude qui montre que pour ces éléments-là, j'ai un respect, c'est-à-dire j'aborde cela avec beaucoup de déférence. Alors donc, je commence par donner quelques exemples. Par exemple, le respect de la personne, des personnes âgées. Quand je prends un enfant, il doit respecter les personnes âgées, notamment ses parents, les membres de sa famille et les personnes qui sont dans sa maison, dans son quartier. Et ensuite, il doit respect à ses enseignants, à ses professeurs, au personnel administratif, en tout cas à toutes les personnes que cet enfant rencontre et par rapport à qui elle doit montrer, n'est-ce pas, qu'elle a reçu une éducation qui fait qu'il a beaucoup de déférence, n'est-ce pas, pour ces personnes-là. Il y a un autre aspect, le respect de la parole donnée. Cet aspect me paraît très important. Lorsque vous êtes entre amis, vous êtes entre collaborateurs, vous êtes entre partenaires et que vous devez prendre une position, vous devez par exemple dire « je vous donne ceci » ou dire « je prends ceci comme responsabilité que je dois assumer » ou comme vous voulez, eh bien, c'est ce qu'on appelle le respect de la parole donnée. Alors, lorsque un homme sérieux a donné sa parole, il ne la viole pas. Il ne viole pas la parole donnée. Et c'est ça qui fait qu'il est un homme responsable. Le respect de la parole donnée est indispensable, n'est-ce pas, dans notre vie. L'autre aspect que je voudrais aborder également, c'est le respect des institutions. Pêle-mêle, j'en parlerai. Je commencerai par le code de la route qui me tient tellement à cœur. Vous voyez bien comment les gens circulent à Cotonou, au Bénin en général. Personne, presque personne ne fait attention. Code de la route, on brûle les feux tricolores, on passe dans les sens interdits, on stationne là où on ne doit pas le faire, on s'installe au milieu de la chaussée pendant que d'autres personnes veulent passer et attendent que celui qui s'est installé anarchiquement, accepte, n'est-ce pas, de se déplacer, etc. Le non-respect du code de la route est une violation qui porte atteinte à toute la sécurité de tous les usagers, puisque généralement, et vous le constatez dans notre pays, les accidents sont légion et cela est dû essentiellement au non-respect du code de la route. Le code de la route doit être strictement respecté. De la même manière, quand je pense à nos élèves, à nos étudiants, le règlement intérieur de l'école, le règlement intérieur de l'institution dans laquelle on se trouve est indispensable. Si on ne respecte pas le règlement intérieur, si on ne respecte pas les règles qui régissent le milieu dans lequel on se trouve, évidemment, on est en porte-à-faux avec ce milieu et on pose des actes qui entravent, n'est-ce pas, le bon déroulement des activités dans ce milieu, qui peuvent également entraver notre présence dans le milieu, n'est-ce pas, qui peuvent nous porter préjudice. Donc, le respect du règlement intérieur est indispensable. Et quand je vais plus loin, je parle du respect de la Constitution et des lois de la République. Le respect de la Constitution et des lois de la République. D'abord, par les citoyens. En tant que citoyens d'un pays, nous avons tous l'obligation de respecter toutes les lois de la République. Je dis pêle-mêle, par exemple, aucun citoyen n'a le droit, quel que soit le motif qui l'y amène, aucun citoyen, dis-je, ne peut délibérément, ne peut pas se mettre au milieu d'une rue, brûler des pneus, barricader la route et empêcher les autres de circuler. Ça, c'est une faute très grave qui est nécessairement sanctionnée. Aucun citoyen n'a le droit de porter entrave à la libre circulation des personnes et des biens en s'installant anarchiquement dans la chaussée. De la même manière, les responsables de l'État ont également le devoir de respecter la Constitution et les lois de la République. J'ai avec moi des exemples regrettables qui montrent que certaines décisions de la haute juridiction, de la Cour suprême par exemple, prises à l'encontre de l'État, restent sans être exécutées. Certains responsables de l'État disent « oui, la Cour suprême a pris la décision, mais moi je décide de ne pas la respecter ». Vous voyez bien, ces comportements portent gravement atteinte à la bonne vie dans la société, dans l'État. Lorsque l'État lui-même crée des situations de frustration du genre, il expose le pays au désordre et cela n'est pas du tout bon. Nous avons également ce que je pourrais appeler le respect du bien privé. Le respect du bien privé signifie, entre autres, que je ne peux pas, je ne dois pas aller prendre ce qui ne m'appartient pas. Je dois respecter le bien privé. Le respect du bien privé impose également que je m'interdise d'aller détériorer sous un prétexte, sous quelque prétexte que ce soit, d'aller détériorer le bien de quelqu'un d'autre. C'est une entrave à la loi et cela est également puni. Il y a également le respect du bien public. On commence par le patrimoine de l'État que personne n'a le droit d'accaparer frauduleusement. Les détournements constituent un manque de respect du bien public. Mais aussi, je constate dans les rues, les nouvelles rues et autres que le gouvernement a construites avec beaucoup de frais, je constate que au bout de quelques jours seulement de circulation, eh bien, des poteaux sont déjà tombés et puis ne sont pas remplacés. Il y a des citoyens qui, je ne sais pas si c'est cela, qui se permettent, n'est-ce pas, de détériorer ces matériels-là et cela reste ainsi sans être réparé. Nous avons le devoir, tous en tant que citoyens, de respecter le bien public, ce qu'on a mis à notre disposition. Et je reviens un peu sur le code de la route pour dire que j'ai constaté personnellement que certains panneaux de signalisation implantés à des endroits et qui indiquent un certain nombre de dispositions que l'on doit prendre, les panneaux sont tout simplement arrachés par des individus qui vont les vendre dans la ferraille. C'est un manque de civisme, c'est un manque de respect, n'est-ce pas, du bien public. Je parlerai également assez rapidement du respect de la personne humaine. Le respect de la personne humaine nous impose de ne pas porter atteinte à l'intégrité morale ou à l'intégrité physique d'un individu, quel qu'il soit. J'ai vu dans une vidéo deux personnes à moto et munies d'un bâton dont ils ont frappé sévèrement une jeune fille sous prétexte que celle-ci se serait mal habillée. Et si c'était le cas, il ne revient pas à des individus, à des kidams qui passent, de se mettre à frapper, à molester la personne au motif de vouloir, n'est-ce pas, et lui montrer ce qu'elle doit faire. Ça ne relève pas de l'individu, mais ça relève de l'autorité de l'État qui doit savoir indiquer les dispositions de bonne mœurs que chacun de nous doit prendre. Il y a également le respect de l'autorité de l'État. Le respect de l'autorité de l'État me paraît primordial parce que je vois certains individus qui pensent que l'État est leur camarade et qu'ils peuvent s'adresser à l'État comme ils veulent et qu'ils peuvent traiter l'État comme ils l'entendent. Cela ne se fait pas. Je vais vous donner un exemple. Et pendant que moi j'étais conseiller technique au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, un vendredi soir, j'ai vu la salle de conférence qui était entièrement remplie par des gens qui attendaient quelque chose, mais ils étaient assis dans la salle de conférence. Je suis allé là-bas, je les ai vus assis, bien sûr. Mais j'ai vu un caméraman qui était assis dans le fauteuil du ministre. Je l'ai poliment supplié de quitter cet endroit parce que cette place-là est la place réservée au ministre. Ce monsieur m'a dit, quel ministre? Moi aussi, je vais être ministre. Je lui ai répondu, pour le moment, vous ne l'êtes pas et je vous prie de quitter cet endroit. Mais ce monsieur, il s'est entêté, il n'a pas voulu partir. J'ai dû faire intervenir les autorités pour qu'on vide la salle de conférence. Comment donc vous pouvez, n'est-ce pas, alors que vous ne l'êtes pas, aller vous asseoir dans une salle de conférence à la place réservée au ministre? Cela ne se fait pas. C'est juste un exemple pour montrer que le respect de l'autorité de l'État est primordial et ne peut en aucune façon être toléré. J'entends des gens déblatérer sur le pouvoir. Je peux ne pas être d'accord avec le gouvernement. Je peux ne pas être d'accord avec un certain nombre de décisions que prend le gouvernement, mais je n'ai pas du tout le droit de porter atteinte à la personne de l'autorité, n'est-ce pas, à travers mes propos qui sont généralement désobligeants. Le respect de l'autorité de l'État s'impose à nous comme un impératif auquel nous ne pouvons sous aucun prétexte déroger. Ensuite, parlerai également du respect de l'environnement. Et aujourd'hui, des dispositions sont en train d'être prises pour empêcher les gens de faire des incongruités un peu partout. Et lorsque nous manquons de respect à l'environnement, nous entravons la vie des autres, nous portons atteinte à leur liberté, à leur droit de vivre dans un environnement sain. Et cela également doit être, n'est-ce pas, condamné. Et il y a des gens qui... J'ai vu... Et tout au long de certaines rues, et des arbres qui ont été plantés pour des raisons que tout le monde connaît. Mais les caïcédras sont, si je peux m'exprimer ainsi, les souffres-douleurs des guérisseurs traditionnels. La plupart des caïcédras ont été écorchés et cela entraîne parfois la mort de ces arbres-là, ce qui n'est pas bien. Nous devions, n'est-ce pas, par civisme, n'est-ce pas, respecter l'environnement en respectant les éléments qui protègent l'environnement. Je ne sais pas, je n'ai pas tout dit, mais je pense que j'ai abordé un certain nombre de préoccupations qui se rapportent au respect, le respect que nous devons avoir les uns pour les autres, le respect que nous devons avoir pour les institutions, le respect que nous devons avoir pour la République, le respect que nous devons avoir pour nous-mêmes et pour que la société soit une société responsable, une société empreinte de courtoisie et une société où on peut vivre facilement. Lorsque ces aspects-là manquent, la société devient semblable à une forêt où chacun peut faire ce qu'il veut à l'autre. Je vous remercie.
C'est nous qui vous remercions, doyen Marius Dakpogan. Je rappelle que Marius Dakpogan est professeur certifié de lettres à la retraite. Il est le président fondateur de l'Institut supérieur de formation professionnelle. Le commentaire du doyen a exploré tous les champs que requiert la notion de respect. Jean Olaï Tantounoukouin.
Oui, j'ai pris du plaisir aussi à écouter le doyen Maurice Dakpogan qui est resté uniquement dans le champ du respect qui est d'abord un champ large. Il a essayé donc d'expliquer en tout cas tout ce qui regorge, ou du moins
tout ce qui est lié
qui est lié au respect. Mais quand on revient à la chronique, c'est entre tradition et modernité. Et je pense quand même que c'est bien que le doyen puisse explorer toutes les pistes liées au respect, mais de façon générale, c'est de façon générale. Il est beaucoup plus resté dans la généralité pour nous expliquer ce qui doit être normalement. Et donc, quand on se réfère à la chronique de Maude Johnson, on sent quand même que il y a le respect, il y a la tradition et la modernité. C'est de cela qu'il est question. Je pense quand même que c'est une autre émission dans cette émission que le doyen Dakpogan a essayé donc de nous faire comprendre les notions du respect. Mais quand on va transporter tout ce que le doyen a dit dans une autre, dans la modernité, je pense quand même que ça va prendre un peu un coup. Moi, la tradition pour moi, aujourd'hui, quand on prend le Dahomey devenu Bénin, il y avait une constitution, le Dahomey Kasudo qui existait. Et c'est sur ces lois-là que fonctionnaient nos aïeux. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en a fait en réalité? Jusqu'à l'heure où je vous parle, il y a certains endroits au Bénin où la royauté est de mise, la tradition est de mise. Vous allez là-bas, quand le roi parle, c'est que le roi a parlé. Il y a le roi qui a ses ministres, il y a un autre gouvernement. Aujourd'hui, la monarchie, dans certains endroits du Bénin qui existent encore, et quand vous allez là-bas, même un président de la République ne peut pas aller sur ces territoires-là sans passer d'abord par les rois.
Nous sommes presque au terme de cette émission, Jean-Ola et Tantôn Coin. C'est intéressant de vous écouter. Malheureusement, le temps est totalement parti. Mais vous allez conclure, cette fois-ci, en 30 secondes. Je vous pose une dernière question conclusive de cette émission, Jean-Ola et Tantôn Coin. Le respect entre modernité et tradition, est-ce qu'on ne peut pas rester dans le respect, dans la tradition, tout en le conformant à la modernité?
C'est la meilleure des choses.
Merci. Merci beaucoup pour votre réponse assez laconique qu'on ne pourra malheureusement pas développer parce que le temps est arrivé à terme. Cette émission se referme ainsi avec la complicité technique de Ferdinand, à la réalisation Gloria Divessaudé, à la coordination éditoriale Ulrich Vital Arotondi sont intervenus dans cette émission Maudi Johnson par le biais de sa chronique. Laurent Ladous, notre consultant depuis Paris, nous a aidé à rentrer dans les débat dans cette émission à travers son commentaire introductif des débats sur l'émission Chronique en débat. Et nous avons eu également la bienveillance de notre cher aîné et doyen, de notre père, Marius Dakpogan, professeur certifié de lettres à la retraite, qui est également intervenu dans cette émission pour nous parler au sens large de la notion du respect. Merci à toutes et à tous d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous mardi prochain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et à mardi prochain.
La chronique en débat, c'est l'actualité éducative avec l'éditorial de l'Espère, comme l'a vu Maudy Johnson, analysé et commenté par Laurent Ladouce. La chronique en débat, c'est chaque semaine sur la web radio du groupe Éduc Action.